s'intriquent avec leur métier d'écrivain, parce que finalement elles vont puiser dans leurs connaissances professionnelles les éléments qui leur permettent d'écrire. C'est assez amusant.
Donc le dernier roman de Peter James va paraître en 2011, La mort vient à Pemberley, qui est traduit en français chez Fayard en mai 1912 et qui sera adapté l'année suivante par la BBC. Elle associe ce roman à sa profonde admiration pour Jane Austen, de qui elle a appris, dit-elle, une vertu essentielle à son art, la nécessité d'asseoir toute intrigue romanesque sur une structure narrative concertée, solide et stricte. Voilà. Alors, elle a 15 romans qui vont être adaptés pour la télévision ou pour le cinéma. Et donc, après sa mort, deux recueils de nouvelles publiés de manière éparse paraissent. Donc, les 12 indices de Noël et autres récits. Et à en perdre le sommeil, 6 histoires assassines.
Quel succès. On peut préciser que dans tous ses romans, P.D. James respecte le même pacte de lecture, c'est-à-dire qu'elle donne à son lecteur les mêmes indices à découvrir qu'au détective qui mène l'enquête. On est placé au même niveau.
Voilà. Donc maintenant, je vous propose d'écouter une nouvelle de P.D. James. Donc voilà, j'ai mis aussi que c'était en 2020, mais c'est des nouvelles qui ont été publiées à titre posthume.
C'est la parution. Voilà.
Donc la nouvelle s'appelle « Un petit boulot à côté ».
Rediffusion d'une émission de Principe Actif. Une rediff, quoi.
Lorsque vous lirez ces mots, je serai mort. Depuis combien de temps, ça je ne peux pas le dire. Je vais déposer ce document dans la chambre forte de ma banque, avec pour instruction de l'expédier le premier jour ouvrable, après mon enterrement, au journal qui aura le plus gros tirage à ce moment-là. Je n'ai qu'un seul regret, je ne serai plus présent pour savourer ce triomphe rétrospectif. Mais c'est sans importance, je le savoure chaque jour de ma vie. J'aurai accompli ce que je m'étais juré de faire à l'âge de 12 ans, et le monde en sera informé. Cela ne passera pas inaperçu, croyez-le bien. Je peux vous dire exactement à quelle date j'ai décidé de tuer Case Manston Green. Nous étions tous les deux élèves à l'internat St. Chad's, à la limite de Surrey. Lui était le fils unique d'un riche homme d'affaires, propriétaire d'une chaîne de garage. Mes origines à moi étaient beaucoup plus modestes. Et je n'aurais jamais atterri à St. Chad's si je n'avais bénéficié d'une bourse qui portait le nom de celui qui l'avait fondée. Les 6 années que j'y passais, de 11 à 17 ans, furent des années d'enfer. Case Manston Green était la terreur de l'école, et sa victime toute désignée. C'était moi. Un boursier timide, pas très grand, affublé de lunettes, qui ne parlait jamais de ses parents, ne recevait pas de visite aux petites vacances, portait un uniforme de toute évidence acheté d'occasion. Le plus faible de la portée, celui qui sera immanquablement écrasé. Pendant 6 ans, chaque matin de l'année scolaire, je me suis réveillé la peur au ventre. Les professeurs, du moins certains d'entre eux, devaient avoir compris ce qui se passait, mais ils me donnaient l'impression de faire partie du complot. Et Manston Green était malin. Il n'y avait jamais de bleu trop voyant. Les souffrances qu'il m'infligeait étaient beaucoup plus subtiles. Sa malice prenait aussi d'autres formes. Il lui arrivait de m'admettre dans son cercle de lèche-bottes. Il me donnait des sucreries, partageait ses provisions, me défendait quand d'autres garçons s'en prenaient à moi, me laissant espérer que tout allait changer. Mais rien ne changeait jamais. Inutile de rapporter en détail la liste de ses inventions. Il suffit de savoir que le soir du 15 février 1932 à 18h, je me fis un serment solennel. Un jour, je tuerai Case Manston Green. C'est ce serment qui me permit de supporter les 5 années de tourment qui suivirent, et j'y restai fidèle par la suite, sans que ma résolution ne fléchisse jamais. Tuer Manston Green, une idée fixe pendant toute ma vie. Cela peut vous sembler étrange, à vous qui lirez ces lignes après ma mort. On finit quand même par oublier la cruauté de l'enfance, vous direz-vous. Ou du moins, elle vous sort de l'esprit. Mais pas cette cruauté-là, et pas de mon esprit. En détruisant mon enfance, Manston Green a fait de moi ce que je suis devenu. Je savais aussi que si j'oubliais ce serment enfantin, au moment de mourir, je serais submergé par l'amertume, les regrets et l'humiliation. Je n'étais pas pressé, mais je devais le faire. Mon père, avait hérité de l'entreprise familiale située à la limite des quartiers est de Londres. Il était serrurier et m'apprit son métier. Le magasin fut bombardé pendant la guerre et mes deux parents y laissèrent la vie. L'argent du gouvernement compensa cette perte. La maison et le magasin furent rebâtis et je repris les affaires. Le magasin ne fut pas la seule chose dont j'héritais de cet homme secret, obsessionnel et malheureux. Je repris aussi le petit boulot qui l'avait à côté. Pendant toutes ces années, je restais sur la piste de Case Manston Green. J'aurais pu, bien sûr, recevoir de ses nouvelles régulièrement, en m'inscrivant sur la liste des abonnés au magazine annuel de l'Association des anciens de l'école Saint-Chaz. Mais cela ne me semblait pas une très bonne idée. Je voulais que Saint-Chaz oublie que j'avais jamais existé. Je m'en remis à mes propres recherches. Ce ne fut pas difficile. Manston Green, comme moi, avait hérité de l'affaire familiale. Et tandis que je traversais le Surrey au volant de ma voiture, je prenais note de chaque garage à son nom devant lequel je passais. Il ne me fut pas difficile non plus de découvrir où il habitait. Pendant qu'on faisait le plein de ma Morris Minor, je demandais à l'occasion. « Il y a pas mal de garages Manston Green dans le coin. C'est une entreprise privée, on dirait. » Parfois, on me répondait. « Pas la moindre idée, monsieur, même en cherchant bien. » Mais il m'arrivait aussi d'ajouter une pépite à ma collection d'informations. « Ouais, toujours la même famille. Case Manston Green habite à l'entrée de Stonebridge. » Après cela, il m'avait suivi de consulter l'annuaire local pour trouver la maison. C'était tout à fait le type de maison auquel je m'attendais. Une monstruosité récente de briques rouges, avec des pignons et des colombages pseudo-Tudor, prolongée par un grand garage qui pouvait contenir jusqu'à 4 voitures, une large allée et une haie de troène assez haute pour l'abriter des regards, le tout entouré d'un mur de briques rouges. Un panneau de bois sur le mur annonçait « Manston Lodge » en lettres pseudo-gothiques. Je n'étais pas particulièrement pressé de le tuer. Ce qui m'importait, c'était que ce soit fait sans que je puisse en rien être soupçonné et si possible que ce soit réussi du premier coup. Imaginez comment je le ferais me procurer immanquablement du plaisir. Mais je savais qu'il y avait là un danger, celui que l'anticipation devienne une fin en soi. À un moment ou à un autre, la planification, même si elle était pour moi source de nombreux délices, devait laisser place à l'action. Lorsque la guerre éclata, en 1939, ce que je craignais bien plus que les bombes, c'était que Manston Green ne soit tué. Penser qu'il mourrait sur le champ de bataille et qu'on se souviendrait de lui en héros m'était insupportable. Je n'aurais pas dû m'en inquiéter. Certes, il s'enrôla dans l'aviation, mais pas en tant que pilote. Les ailes tant convoité ne furent jamais cousu au-dessus de sa poche de poitrine de son uniforme. Il faisait partie des prodiges sans ailes, comme on les appelait, je crois, dans la Royal Air Force. Je pense qu'il s'occupait plus ou moins des équipements et de leur entretien, et il a dû se révéler efficace. À la fin de la guerre, il était lieutenant-colonel, et bien sûr, il avait conservé ce grade dans le civil. Selegebot l'appelait « mon colonel » pour son plus grand bonheur. En 1953, je décidai qu'il était temps de mettre en place des mesures décisives pour l'éliminer. Mon entreprise réussissait passablement bien. J'avais un gérant et un assistant, tous les deux fiables. Je pouvais donc m'absenter sans crainte sur de courtes périodes. Le petit boulot que j'avais à côté était une excuse toute trouvée. Je commençais à faire de brefs séjours dans la bourgade prospère où vivait mon ennemi, à Stonebridge, au-delà de la ceinture des villes dortoirs. Il serait sans doute plus approprié de dire qu'il y tenait sa cour. Il était membre du conseil municipal et de 2 ou 3 œuvres caritatives, de celles qui confèrent du prestige, sans avoir trop d'exigences pour le portefeuille. Il était aussi à la tête du club de golf. Bien entendu, mon colonel se pavanait dans les locaux du club comme il l'avait certainement fait dans le mess des officiers. À cette époque, j'en avais appris pas mal sur Case Manston Green. Sa première épouse avait divorcé en emmenant leurs 2 enfants. Il était maintenant marié à Shirley May, de 12 ans plus jeune que lui. Mais c'était le fait qu'il dirigeait le club de golf de Stonebridge qui m'inspira la manière de me rapprocher de lui. Il ne m'avait pas fallu plus de 5 minutes dans les locaux du club pour sentir l'atmosphère de snobisme, banlieusard mesquin qui y régnait. Personne ne déclarait ouvertement que ni les Juifs ni les Noirs n'étaient admis, mais il était évident qu'une série de conventions tacites, acceptées par tous les membres, pour la plupart des hommes aux affaires florissantes dans la communauté, permettait à ces quelques élus de se sentir supérieurs. Toutefois, tout comme dans les entreprises ordinaires, ils cherchaient à accroître leurs revenus, et on pouvait faire un tour sur leur parcours moyennement finance. Soit seul, soit avec un partenaire si l'on en trouvait un. On pouvait aussi prendre des cours avec un professionnel. Je donnais un faux nom, bien sûr, et je payais toujours en liquide. Je buvais une bière en solitaire, prenais mon cours et je repartais sans me faire remarquer. Le jeune garçon ordinaire, pas très grand et affublé de lunettes, était devenu un homme ordinaire, pas très grand et affublé de lunettes. Je m'étais laissé pousser la moustache, mais par ailleurs, j'avais peu changé. Je ne craignais pas que Mansing Green me reconnaisse, mais pour ne pas prendre de risque, je ne m'approchais jamais de lui. Est-ce que moi, je l'avais reconnu lorsque je le vis pour la première fois après tant d'années? Comment aurait-il pu en être autrement? Lui aussi était la version adulte de celui qui m'avait tourmenté dans ma jeunesse. Il était toujours grand, mais costaud. L'estomac portait haut, il avait le visage rougeau, la voix forte, les cheveux noirs lissés en arrière. Il était évident qu'il inspirait le respect. Mon colonel, Case Manston Green, homme d'affaires prospère, pourvoyeur d'emplois et de coupes en argent, celui qui vous tapait dans le dos et vous offrait un verre. Et puis je vis Shirley May, sa seconde épouse. Elle buvait un verre au bar avec ses amis. Shirley May. On l'appelait toujours par ce double prénom et derrière le dos de son mari, j'entendais des insinuations salaces. En avril, elle ne se découvre pas d'un fil. Mais en mai, elle fait ce qui lui plaît, Shirley May. C'était sa femme trophée, blonde, fausse bien sûr, voluptueuse, aux longues jambes, la séduction incarnée par les vedettes de série B. Il me suffisait de l'avoir flirté au bar du club, entouré d'un groupe d'imbéciles fascinés, pour avoir des hauts le cœur. C'est alors que j'entrevis la manière de tuer son mari. Non seulement de le tuer, mais de le faire souffrir pendant des mois, d'agonie prolongée, comme il m'avait fait souffrir pendant des années. Ma vengeance ne serait pas parfaite, mais je ne voyais pas comment faire mieux. Il fallait planifier soigneusement les mois qui mèneraient au dénouement. Tout d'abord, il était important que Manston Green ne me voie pas, ou du moins pas d'assez près pour me reconnaître, et qu'il n'entende jamais mon faux nom. Ce n'était pas difficile, il ne jouait que les week-ends le soir. Je choisis les mercredis matins. Mais lorsque nos visites coïncidaient, mon colonel était bien trop sûr de sa supériorité pour poser les yeux sur un joueur occasionnel, sans marque distinctive, qu'on acceptait sur le parcours simplement parce qu'on avait besoin de son argent. Il était tout aussi important qu'aucun des autres membres ne me remarque, même en passant. Il fallait que je joue mal, et les quelques fois où quelqu'un consentit à être mon partenaire, je jouais mal. Ce ne fut pas facile. J'ai des facilités pour viser juste. J'avais une histoire toute prête. Ma mère, âgée et souffrante, vivait dans les environs, et comme il se doit, je lui rendais visite à l'occasion. Je me lançais dans des descriptions ennuyeuses de ses symptômes, des pronostics la concernant, et pouvais observer les yeux se voiler tandis qu'on s'éloignait de moi. Je ne venais pas trop souvent, je ne voulais pas faire l'objet de remarques et de questions, même désobligeantes. Je ne voulais sortir du lot en aucune manière, pas même en tant qu'homme le plus ennuyeux du club. D'abord, il me fallait la clé du vestiaire. Pour un serrurier, cela ne présentait aucune difficulté. À force d'observation, j'ai découvert que 3 personnes avaient une clé. Winston Green, le secrétaire du club, Bill Carraway, et le joueur professionnel, Alistair McPhee. Celle de McPhee était la plus accessible. Il la gardait dans la poche de la veste qu'il pendait chaque fois à la porte de son bureau. Je pris mon temps. Un mercredi matin, alors qu'il était retenu sur le parcours par un élève particulièrement exigeant, je mis des gants, pris la clé dans sa poche et après m'être enfermé dans les toilettes, en fis une empreinte. Lors de ma visite suivante, j'essayais la clé, elle marchait. Alors commença la seconde partie de ma campagne. Tard le soir, seul dans mon bureau londonien, les mains gantées, je découpais des mots dans les journaux nationaux afin de les coller sur du papier à lettres, celui que l'on trouve dans toutes les papeteries. Les messages que j'envoyais 2 fois par semaine comportaient quelques petites variations dans l'énoncé, mais le poison distillé restait toujours le même. Pourquoi avoir épousé cette salope? Vous ignorez qu'elle s'envoie en l'air avec quelqu'un d'autre? Vous êtes aveugle ou quoi? Vous ne voyez pas le manège de Shirley May? Ça me fait mal au cœur de voir un homme bien porté des cornes. Vous devriez surveiller votre femme. » Oh, ils faisaient leur effet. Lorsque je me rendis au club les jours suivants et les observais tout en gardant prudemment mes distances, je me rendis compte que la stratégie que j'avais soigneusement mise au point portait ses fruits. Ils se disputaient en public. Les membres du club prenaient la tangente lorsqu'ils étaient ensemble. Mon colonel était sur les nerfs, et par conséquent, elle l'était aussi. Selon mes estimations, le mariage ne tiendrait plus de moi, ce qui impliquait que je devais passer à l'action sans délai. Je décidai que cela se ferait 2 semaines plus tard. Il ne manquait plus qu'une seule chose, je m'assurai que les nouveaux clubs de golf que j'avais achetés étaient de la même marque que les siens, hors de prix, mais c'était nécessaire. Puis, j'ai changé mon driver contre le sien. Bien sûr, je gardais mes gants. C'était ses empreintes que je voulais, pas les miennes. En ce jour fatidique, je m'assurais qu'ils avaient bien reçu mes messages. Le matin même, lui par la poste, elle glissée sous la porte d'entrée, après qu'il eût quitté la maison pour se rendre au travail au volant de sa voiture. Celui de madame disait: « Si vous voulez savoir qui envoie les messages, retrouvez-moi au vestiaire du club à 9h ce soir. » Un ami. Celui de monsieur disait la même chose, mais le rendez-vous était fixé 10 minutes plus tard. J'avais conscience qu'il se pouvait qu'aucun des deux ne vienne. C'était un risque. Mais dans ce cas, je ne courais aucun danger. Cela impliquerait seulement de trouver une autre manière de tuer Manston Green. J'espérais que cela ne serait pas nécessaire. Je tirais tant de satisfaction de mon plan et des tourments que je prévoyais pour lui. Je ne vais pas vous encombrer de détails, ils ne sont pas nécessaires. J'avais ma clé du club et j'attendais madame, le driver de son mari, à la main. Comme je l'ai dit, je sévisais juste. Il ne me fallut que 2 coups pour la tuer, 3 de plus pour réduire son visage en bouillie. Je laissai tomber le driver et sortis en refermant la porte à clé. Au bout du chemin, il y avait une cabine téléphonique. Lorsque je demandai la police, on me mit en relation immédiatement, sans aucun problème. Je déguisai ma voix, bien que cela ne soit pas strictement nécessaire. J'adoptais le ton haut perché d'un vieil homme perdu et terrifié.
« Je viens de passer devant le club de golf, j'ai entendu des cris, une femme. Je crois que quelqu'un est en train de l'assassiner. »
« Et quels sont vos noms et adresses, monsieur ?»«
Non, non, je ne veux pas être mêlé à tout ça, je n'ai rien à y voir, j'ai juste estimé que c'était mon devoir de vous informer. »
Et je raccrochai, les mains toujours gantées. Ils vinrent, bien sûr, juste à temps pour trouver Manston Green penché sur le corps de sa femme. Je n'aurais pas pu le planifier. J'avais imaginé qu'un retard serait possible, mais que dans tous les cas, il trouverait le club de golf avec le sang de madame et des mèches de ses cheveux qui s'ajouteraient aux empreintes et aux preuves de leur mésentente. Mais il n'y eut pas de retard, ils furent juste à l'heure. Je résistais à la tentation d'assister au procès. C'était vraiment dommage de devoir renoncer à ce plaisir. Toutefois, j'estimais que c'était plus prudent. La presse prenait des photos de l'assistance et bien que les chances d'être reconnu aient été infimes, pourquoi prendre des risques? Je me disais aussi qu'il était plus raisonnable de continuer à aller au club, mais moins souvent. Le meurtre était sur toutes les lèvres. Pourtant, personne ne s'est jamais soucié de solliciter mon avis. Je prenais ma leçon en solitaire, puis je repartais. Il fit appel, bien sûr, et j'eus quelques sueurs froides. L'appel fut rejeté et je compris que l'issue était maintenant inévitable. Il n'y eut que 3 semaines entre la condamnation et l'exécution, et ce furent probablement les 3 semaines les plus heureuses de ma vie, pas parce que je bouillonnais de joie, mais parce que pour la première fois depuis que j'étais entré à Saint-Chatz, je me sentais en paix avec moi-même. La semaine avant l'exécution, j'étais avec lui par la pensée à chaque minute de chaque heure qui s'écoulait dans la cellule du condamné. Je savais ce qui se passerait le matin du jour où on l'expédierait hors de ce monde et hors de mon esprit. J'imaginais l'arrivée du bourreau la veille pour se conformer aux exigences du ministère de l'Intérieur. Lâcher un sac de sable en présence du directeur pour être sûr qu'il n'y aurait pas d'incident fâcheux et que la corde aurait la bonne longueur. Je serai avec lui lorsqu'il s'efforcerait de voir à travers le judas de la porte du condamné, une porte qui n'était qu'à quelques pas de la pièce où il serait exécuté. Si les choses se passent bien, ce n'est pas une mort cruelle, et je savais que Manston Green souffrirait probablement moins que moi au moment de ma propre mort. C'était pendant les semaines qui précédaient la pendaison qu'il souffrirait, et qu'il serait le seul à en connaître vraiment toutes les horreurs. J'imaginais sa dernière nuit, comment il se tournerait et se retournerait dans son lit. Je voyais pointer la lumière croissante de l'aube du jour redouté, le petit déjeuner qu'il ne pourrait pas avaler, et la bienveillance maladroite du garde qui le surveillait jour et nuit. J'accompagnais le bourreau lorsqu'il ligoterait les bras de Manston Green dans son dos. Je faisais partie de la petite procession qui franchissait le seuil de la porte redoutée, avec le gouverneur de la prison au visage blême, l'aumônier, les yeux fixés sur le livre de prière qu'il tenait dans ses mains tremblantes. C'est une mort rapide, il n'y a que 20 secondes entre le moment où les bras sont ligotés et celui de la chute. Mais à un moment donné, avant qu'on ne lui recouvre la tête d'un capuchon blanc, il verrait l'échafaud, le nœud coulant, pendu précisément à hauteur de sa poitrine. C'était ces quelques secondes qui faisaient mon bonheur. Comme à l'accoutumée, je me rendis à la prison le jour qui précédait l'exécution. Il y avait des choses à faire, des instructions à suivre. On m'accueillit poliment, mais sans chaleur. Je savais qu'il se sentait contaminé lorsqu'il me serrait la main. Et chaque prisonnier, dont chaque cellule, savait que j'étais là. On entendait le vacarme habituel des clameurs, des coups d'ustensile contre les portes des cellules. Une petite foule de protestataires et de voyeurs morbides se rassemblait déjà aux portes de la prison. Comme mon père avant moi, je suis un artisan consciencieux. Je le connais très bien, ce petit boulot que j'exerce à côté. Et je pense qu'il m'a reconnu. Oh oui, il m'a reconnu. Je l'ai vu dans ses yeux. À la seconde où je lui ai passé le capuchon blanc sur la tête, juste avant d'actionner le levier, il est tombé comme une pierre. La corde s'est tendue en tremblant. L'œuvre de ma vie était enfin accomplie à présent. J'étais en paix. J'avais tué Case Manston Green.
Je crois qu'il y a 100% de chômeurs de cette profession en France actuellement, n'est-ce pas Dominique?
Oui, je crois.
Surtout, oui. C'est bourreau, oui.
Donc voilà, une petite histoire un peu glaçante quand même. Hein, voilà. Alors là, on va revenir en France pour une dernière histoire. Alors, dans un entretien avec Roger Stéphane, Siménon déclarait, j'ai... Bah tiens... Dominique, lis-nous ce que disait. Ah, bah non, tu l'as pas. Si.
Non, je ne l'ai pas.
Non,
je...
voilà.
C'est embêtant.
Voilà, c'est embêtant.
Il y a un jeu de passe-passe
oui,
dans le studio de feuillet.
Tout en bas de la page.
Ah, oui, d'accord. J'essaie mes personnages comme on essaie un veston. Il me va ou il ne me va pas. Il faudra bien qu'il m'aille puisque je vais devoir vivre 9 jours avec lui.
Oui, on l'avait dit lors d'une précédente émission, Mireille, Siménon écrivait très vite ses livres et il en perdait, je ne sais plus combien de kilos, tu te souviens, on avait
oui,
expliqué
bah,
ça.
Il devait écrire ses livres, bah, je crois que le redit là, en une dizaine de jours,
et ouais. Il maigrissait, il fumait pipe sur pipe et il maigrissait
voilà,
de
il, voilà, il faisait
7,
que ça voilà, pendant
En fait,
pendant
il ne mangeait plus.
Voilà, il était absorbé.
Alors là, bah, je vous propose d'écouter le château des disparus.
C'est voilà. Un programme.
Alors, on a quand même fait. Donc, c'est un. C'était dans la série des 13 énigmes. Et donc, on a fait une petite modification pour le personnage de G7, puisque normalement, c'est un inspecteur. Et que là, on l'a féminisé, ouais. Parce que du coup, voilà. Comme on était tous les deux avec Philippe, voilà. On a...
Et qui joue G7?
Voilà, donc...
c'est Mireille.
Inspectrice.
Voilà, donc on a changé l'inspecteur en inspecteur.
Rediffusion d'une émission principe actif.
C'est le bon ton.
Une rediff, quoi.
Oui, et puis voilà. Tu as une voix grave, Mireille.
Voilà. Allez, on écoute le château des disparus.
L'impression est plus ou moins forte selon les cas. Mais pour moi, elle reste toujours le souvenir le plus vif que je garde d'une enquête. Le moment où l'on ne sait rien, où l'on n'a que les quelques données grossières qui sont parvenues à la police, où l'on imagine les personnages selon son tempérament, et où l'on débarque dans un milieu nouveau, dans une région que l'on ne connaît pas souvent. Des agités vous attendent, la ville ou le village est en rumeur, et cette rumeur cache des intérêts qu'il va falloir démêler. On descend du train avec une petite angoisse, un peu, en somme, comme quand on jette des plaques sur le tapis vert. Quand j'en ai parlé un jour à G7, elle a laissé tomber.
Littérature.
Mais la preuve qu'elle s'y laisse prendre, tout comme moi, c'est qu'à ce moment-là, elle garde toujours le silence. Cette fois, le décor, les moindres éléments du drame, tel qu'il nous était présenté était bien fait pour impressionner. Le hasard voulait que nous arrivions à 7 heures du soir, et comme on était en octobre, il faisait nuit. Un méchant autobus d'abord pour nous transporter de la ville au village. Là, des gens nous attendent, nous épiant, se mettant à nous suivre à distance dès que nous nous dirigions à pied vers le château. On devait être étonné que G7 n'interrogeât personne, qu'elle alla droit au but en dédaignant les déclarations qu'eussent pu faire les paysans. La campagne dans l'obscurité, des vols d'oiseaux, des bruits étranges pour les gens des villes, puis une allée sombre bordée de peupliers courbée par le vent. Au bout de cette allée, une masse noire, une tourelle se découpant sur des nuages gris, le point lumineux d'une fenêtre. Ces ombres qui nous suivaient, tout le village devait être sur nos talons, silencieux, à distance. Enfin, le bruit du marteau que G7 souleva et laissa retomber lourdement. Nous dûmes attendre 5 minutes pour le moins. Et je me souviens que ma compagne tenait la main dans celle de ses poches où elle a coutume de mettre son revolver. Nous ne pouvions savoir ce qui nous était réservé. Ce que nous connaissions de l'affaire tenait du cauchemar, de la fantasmagorie ou du cabanon. En deux mots, trois hommes avaient subitement disparu dans ce château sur le perron duquel nous nous trouvions. Et l'on accusait le quatrième du triple crime. Or, ce quatrième était le châtelain, le comte de Buc, qui aurait, pour des raisons encore mystérieuses, donné la mort à ses domestiques. Nous l'aperçûmes à une fenêtre, sur le rebord de laquelle il se pencha. Le conducteur de l'autobus nous avait prévenu qu'il se défendrait sûrement à coups de fusil. Il n'en fut rien. Quelques instants plus tard, la porte s'entr'ouvrait. Nous distinguions une haute silhouette dans le noir du hall. Et une voix nous disait
« Police, je suppose. Veuillez vous donner la peine d'entrer, messieurs, dames. »
La porte se referma sur nous. Puis une autre fut poussée et nous nous trouvâmes dans une bibliothèque gothique qui était éclairée. Le comte était grand, d'une pâleur qui devait être naturelle, avec des prunelles fatiguées, quelque chose de lassé dans toutes ses attitudes, ce qui lui donnait assez grand air. Il ne nous invita pas à nous asseoir, mais il nous désigna des chaises. Puis, sans transition, du bout des lèvres, en laissant tomber des mots négligemment, il fit son récit.
« Je vous attendais. Il était naturel que cette canaille... »
Il désignait le parc où les paysans formaient une masse silencieuse dans la nuit.
« S'occupa de mes affaires. »
Il ne s'asseyait pas. Il marchait de long en large.
« Si nous étions toujours au Mexique, je ne vous aurais pas ouvert ma porte et je vous aurais envoyé quelques balles de gros calibre. » Car là-bas, j'avais pour principe de m'occuper moi-même de mes affaires. Mais il faut que je me réhabitue à la France et à ses mœurs. Puis-je vous demander, cependant, quel grade vous avez dans la police ?
Inspectrice.
Bien, est-ce suffisant pour que je n'aie pas à recommencer 10 fois mon récit, chaque fois devant un personnage un peu plus hiérarchiquement important ? J'ai horreur des formalités. J'ai vécu pendant 25 ans dans une des régions les plus désertes du monde, là-bas, vers les bouches du Rio Grande. Et j'aime autant vous dire que quand un monsieur venait au nom d'un quelconque gouvernement pour lever des impôts, pour des chinoiseries de ce genre, nous lui donnions à choisir entre une balle dans la tête et la fuite. Lorsque j'ai quitté la France, j'étais ruiné. Il me restait juste ce vieux château, qui n'est lui-même qu'une ruine. J'emmenais un domestique, vaché, qui est resté avec moi jusqu'à ces derniers temps. J'ai fait de tout là-bas, de l'élevage, de la prospection, du caoutchouc et des cultures invraisemblables. J'ai fini par trouver une mine d'argent et je suis devenu très riche. Je vous ai parlé de ma solitude. Pour toute compagnie digne de ce nom, j'avais vaché, ainsi que 3 hommes qui furent à la fois mes compagnons d'aventure et mes valets. Juan, l'Espagnol, un gros Hollandais appelé Peter, enfin une espèce de hors-la-loi américain, John Smith. Nous avons pour ainsi dire vécu toujours ensemble. Ensemble nous buvions, jouions aux cartes. Ensemble, quand la solitude nous pesait, nous allions à cheval à la ville voisine, distante de 70 000. À 50 ans, le mal du pays m'a pris. Je suis revenu. Je me suis installé ici avec mes quatre hommes, et la première chose que Vacher a faite a été de me quitter en emportant quelques milliers de francs. Je n'ai pas porté plainte. Ce n'est pas une histoire pour la police française. Après 3 semaines, je ne me sentis pas bien. Je vis un médecin qui, ne connaissant rien de ma vie, m'affirma que j'avais toujours eu le cœur faible et que la moindre émotion me tuerait.
Le comte ricana. Il semblait dominer. Il semblait dominer tout ce qui était autour de lui. Il parlait comme un géant égaré parmi des pygmées.
Ouais, que voulez-vous ? Ces gens-là vous impressionnent.